Nous continuons notre voyage à travers l'évangile de Marc. Oui, ça fait pas mal de temps maintenant qu'on est dans l'évangile de Marc. Et il nous reste quand même pas mal de chapitres. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'évangile de Marc, chapitre 10. Et nous sommes concernés aujourd'hui par les versets 46 à 52. Et on est avec le cher Bartimée. Je vais laisser Zach nous lire ce passage-là avant que je puisse partager avec vous, d'une manière courte, je l'espère, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur et partagé, et qu'il puisse parler au cœur. Donc, ouais, comme tu veux venir là? Allez bien, comme ça, ça s'enregistre bien. Voilà. Donc, Marc, chapitre 10, versets 46 à 52. 46.
Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier : Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort : Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit : Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant : Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit : Que veux-tu que je te fasse ? Rabouni lui répondit : L'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit : Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvre la vue et suivit Jésus dans le chemin.
Merci Isaac. Seigneur, je remets entre tes mains, devant ta face, devant le trône de la grâce, ces paroles que nous venons de lire dans ta parole de vie. Seigneur, que ce partage, que ces mots qui vont être prononcés autour de ta parole soient purifiés, sanctifiés, et que tu parles à nos cœurs, tu parles au cœur de mes frères et sœurs, qu'ils puissent garder que ce que tu as envie qu'ils gardent pour chacun d'eux, chacun à sa mesure. Merci et que ta volonté se fasse. Amen. En lisant ce passage, une pensée qui m'est venue tout de suite, c'est concernant les différents cultes qu'on peut trouver dans le monde. Vous voyez, le dimanche matin, comment nous nous réunissons, d'une certaine manière, il n'y a rien de... C'est pas écrit dans la Bible qu'il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. On n'a pas d'écrit, sauf, je dirais, des anciens écrits qu'on a gardés, qu'on retrouve dans les archives, où on nous dit que les chrétiens se réunissaient, chantaient, etc., autour de la parole de Dieu. Mais le déroulé, chacun, il n'y a pas de déroulé fixe. Donc, mais du moment que c'est autour de la parole de Dieu, autour de Jésus, le Seigneur le bénit. Mais je me suis dit, souvent, avec notre attitude, nous, parce que vous avez vu, ça, on est plus, on va dire, une église calme. Personnellement, je m'y retrouve. D'accord? Gardons-nous de porter un jugement sur le déroulement d'autres églises où c'est plus bruyant, avec des cultures différentes. Si vous cherchez le calme, je vous déconseille d'aller dans une église en Afrique. Hein. Vous serez choqués, hein, je vous le dis. Peut-être pas Bimba, mais je vous assure que l'autre dit, mais qu'est-ce qui se passe là-haut? C'est différent, des cultures différentes. Il y en a qui l'expriment différemment. Et en lisant Bartimée, je me suis dit, ah oui, effectivement. Jésus qui passe, il n'a entendu pas, il commence à crier. Il a dit, tais-toi. Mais non, plus on lui dit de se taire, plus il criait. Il voulait parler à Jésus. Oui, donc si on suivait les règles, les disciples, ils voulaient que ça soit, ah, tais-toi. Les enfants, mettez-vous là-bas. Restez tranquille. Bartimée, tais-toi, ne dérange pas le maître. Tout doit être calme. Non. Lui a dit, faites ce que vous voulez, moi je crie vers le Seigneur. Donc, je fais de mon mieux pour ne pas porter un jugement sur le déroulement d'autres cultes, que ce soit en France ou à l'étranger. Du moment que le centre, c'est Jésus. Et c'est vrai que c'est la première chose qui m'est venue, donc je voulais partager avec vous. Alors ce passage nous parle de ce cher Bartimée. Est très intéressant parce qu'il nous parle directement. Il faut toujours chercher à saisir ou laisser l'esprit nous révéler ce qui se cache derrière l'histoire. L'histoire pour l'histoire, ça n'a aucun intérêt. Si l'histoire pour nourrir mon intellect, on l'a dit tout à l'heure, cet intellect va disparaître. Il n'hérite pas le royaume de Dieu. Le nourrir pour son ego, pour dire voilà, je suis riche, ah, je sais, oui, ça va disparaître. Par contre, si ça nourrit mon esprit, mon cœur, celui-là, il va rester pour l'éternité. Et c'est là l'intérêt. Laissez le Seigneur nous parler par son esprit en s'adressant d'abord à notre esprit, à notre cœur. Et s'il veut que ça rentre dans la tête, eh bien tant mieux, mais ne pas inverser les choses. Soit en même temps, soit l'intellect après. Mais jamais le premier comme condition d'entrée pour dire j'adhère. Le passage que nous venons de lire nous place devant une scène simple, en apparence, mais d'une profondeur spirituelle immense. En tout cas pour moi. Vous savez, il y a une grande partie, 99,99% de ce que je vais vous dire, c'est subjectif. Vous voyez ? Donc je peux me tromper, corriger, et que le Seigneur corrige, qu'il explique les choses différemment. Un homme est là, assis, immobile. Il est aveugle. Il est mendiant en plus. Il est au bord du chemin. Cet homme, vous avez reconnu, c'est Bartimée. On connaît son histoire dans la Bible. La parole de Dieu prend soin. Il n'y a pas de hasard. Je dis bien 1,1 sens dans la parole de Dieu. Ça, c'est pas un hasard. La parole de Dieu prend soin de préciser qu'il s'agit du fils de Timée. C'est dit. Bartimée. Ce détail n'est pas anodin. Alors j'étais chercher ce que ça veut dire Bartimée. Faut qu'on insiste de dire. Le nom Bartimée signifie, comme il l'a dit juste avant, fils de Timée. C'est de l'araméen. Bartimée. Fils de Timée. Et le nom Timée, vous savez ce qu'il évoque? Timée évoque l'honneur, la dignité, la valeur morale. Autrement dit, Bartimée veut dire fils de l'honneur. Mais quel contraste! Ce fils de l'honneur, voilà qu'il est mendiant, qu'il est au bord du chemin. Regardez sa condition. Ce fils de l'honneur, de la valeur morale, de la renommée, est aveugle, mendiant, dépendant des autres, au bord du chemin. Quel contraste! Celui qui porte un nom de dignité vit dans la misère. Et ce contraste nous parle directement, mes frères et sœurs. Car nous aussi, nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous sommes, alors dès l'origine, fils d'honneur, fille d'honneur. Nous sommes appelés à la communion avec lui. Nous portons une dignité spirituelle immense, mais nous pouvons mener une vie de mendiant à côté du chemin. Mais à cause du péché, nous sommes devenus aveugles. Nous avons perdu la direction. Nous nous sommes retrouvés au bord du chemin. Le péché nous a rendus dans l'état spirituel de Bartimée. Alors qu'à l'origine, nous sommes, comme pensée divine, nous sommes créés à l'image de Dieu. Le péché, ce n'est pas une faute morale. La société dénonce les immoralités. Donc réduire le péché seulement à une faute morale, c'est réducteur. Le péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu. C'est ce qui coupe notre communion avec le Père et avec Jésus-Christ. C'est ce qui attriste l'Esprit Saint. Et comme nous l'avons vu précédemment, surtout dans le chapitre 7 de l'Évangile de Marc, ce n'est pas l'extérieur qui nous souille, c'est ce qui sort du cœur. Donc il est question d'esprit et du cœur. On peut avoir des pratiques, des habitudes morales, mais si le cœur n'est pas touché en premier, nous resterons des esclaves du péché. L'aveuglement de Bartimée devient alors une image de notre aveuglement intérieur, de notre cœur obscurci, de notre incapacité à voir Dieu sans sa grâce, et surtout à cause du péché. Mais la condition de Bartimée n'est pas un cas isolé. Dans les évangiles, Jésus rencontre différentes formes de misère humaine. des aveugles qui ne voient pas, des muets qui ne peuvent ni entendre ni parler, des paralytiques incapables de marcher, et même des morts que personne ne peut relever. Il est malheureux aujourd'hui, quand on prêche l'Évangile, on réduit ces miracles à des miracles extraordinaires physiques. On oublie, dans chaque miracle, il y a un message spirituel. Comme j'ai dit, le corps peut être miraculé, peut être guéri, il fera son temps, mais il finira par disparaître et il n'héritera pas le royaume de Dieu. Le plus grand miracle, c'est celui qui se fait dans le cœur, celui-là restera pour l'éternité. Toutes ces situations que je viens de vous citer ne sont pas seulement physiques, des miracles physiques. Elles sont l'image de notre condition spirituelle sans Dieu. Chaque miracle cité dans chaque, je dirais, aliénation ou faiblesse évoquée dans l'Évangile, ça montre une faiblesse, je dirais, spirituelle qui est en nous. Une mort spirituelle, même plus qu'une faiblesse. Quand le Seigneur parle de guérison d'aveugles, il est en train de nous dire l'aveugle représente celui qui est incapable de voir la vérité. Il a besoin d'un miracle du cœur. Les muets, ça représente l'incapacité à parler à Dieu. Et là aussi, Dieu vient guérir. À travers la guérison du muet, il est en train de nous dire, il crée un lien entre lui et nous à travers une communion. Le paralysé, ça représente l'incapacité à marcher selon la volonté de Dieu. Et les morts même, rappelez-nous de Lazare. Eh bien, ça montre notre séparation avec Dieu. Et nous avons besoin de la mort et de la résurrection de Jésus pour transformer cette mort par sa vie. Mais Jésus est venu pour restaurer l'homme tout entier. Jésus, oui, certes, fait du bien, il fait des miracles, nous y croyons. Aujourd'hui, le Seigneur, Dieu fait des miracles et gloire à Dieu. Mais Dieu, le plus important, primordial, c'est celui qui va rester pour l'éternité. C'est-à-dire nous restaurer tout entier. Il ouvre les yeux, il délie la langue, il relève et il donne la vie. Bartimée est donc plus qu'un homme guéri. Il est le symbole d'une humanité que Jésus vient sauver. Et ce jour-là, Jésus passe. Voilà ce qu'on nous dit. Et ce jour-là, Jésus passe. Et quand Jésus passe, tout devient possible. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Bartimée entendit que c'était Jésus de Nazareth. Bartimée ne voit pas, mais il entend. La foi commence ainsi, entendre, voyez. On n'a pas besoin de voir pour croire comme c'était après la résurrection du Seigneur. Si je ne vois pas ces mâles de trous, je ne croirai pas. Heureux celui qui croit sans voir. Bartimée, il est en train de nous dire, je suis aveugle, mais j'entends le Seigneur. Il passe par là. La foi commence ainsi, par une rencontre, par la parole. Aujourd'hui encore, Jésus passe. Ce matin, Jésus passe. Dans la journée, Jésus passe. Quand on est tout seul, Jésus passe. Jésus passe tout le temps. Jésus peut passer dans une prédication, dans un échange, dans un regard, dans une parole, dans une conviction intérieure. Oui, Jésus passe de différentes manières. Mais il y a une différence entre passer et l'entendre. Est-ce que nous l'entendons? Et est-ce que nous répondons à son passage? Bartimée, lui, ne reste pas passif. Il ne calcule personne. Il crie. Jésus, Jésus, où tu es? Et imaginons, l'aveugle est en train de crier et les gens qui sont en train de lui dire, tais-toi. Non, je crie quand même. Il ne fait attention à rien, à personne, parce que le plus important pour lui, c'était Jésus qui passe. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Est-ce que vous avez entendu dire, viens me guérir? Aie pitié de moi! C'est ce qu'il a dit à Jésus en passant. Il sait qu'il passe. Ce cri est un cri de foi. Il reconnaît Jésus comme le Christ. Parce qu'en disant fils de David, il le reconnaît comme le Messie. Puisque à cette époque-là, ils attendaient le Messie qui est la descendance de David. Donc il a reconnu cet aveugle à crier vers Jésus. Aie pitié de moi, mais en le reconnaissant d'abord comme le Messie, le Fils de Dieu. Mais c'est aussi un cri de repentance. Et voilà la repentance qui revient, encore une fois. Il n'y a pas de vie de marcher avec le Seigneur s'il n'y a pas une repentance sincère profonde. Il y a une différence entre crier vers le Seigneur pour ses besoins et le reconnaître comme le Messie et se repentir devant lui. Comme je dis, c'est un cri de repentance. Aie pitié de moi. Il reconnaît sa misère, sa dépendance et son besoin de grâce. Chers frères et sœurs, la repentance est indispensable. Sans repentance, il n'y a pas de salut. Et pour se repentir, ce n'est pas un acte que je décide. La repentance naît de ma communion avec le Seigneur. Quand je prie le Seigneur, quand je lui parle, cette communion crée en moi la repentance. Vous voyez, tout vient de lui, par lui et pour lui. Mais il faut que je sois dans cet acte volontaire d'aller vers lui. Il n'y a pas de salut sans repentance. Sans reconnaissance du péché, il n'y a pas de transformation. Dieu ne cherche pas des apparences religieuses. Il cherche un vrai cœur. Ça, c'est très important. Plusieurs reprenaient Bartimée pour le faire taire. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Rappelons-nous ce qu'on a dit avant par rapport aux enfants. Les disciples étaient sincères qui suivaient le Seigneur. Et quand les enfants, les parents emmenaient les enfants vers Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait les disciples? En fait, ils l'ont fait d'une manière, en fait, avec leur conviction. Ils ont dit, non, laissez le Seigneur tranquille, n'approchez pas les enfants, ne dérangez pas le Seigneur. Sans se rendre compte, inconsciemment, les disciples sont devenus des obstacles. Alors qu'ils pensaient faire bien. C'est pour ça, faites-nous, nous aussi, on doit faire attention. Souvent, on pense bien en portant un jugement sur les uns et les autres. On dit, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais sans se rendre compte, on va à l'encontre de la volonté de Dieu. La foule devient un obstacle, et cela nous parle. Il y aura toujours des voix humaines, mais aussi d'autres voix qui fera tout pour nous empêcher de parler au Seigneur, pour nous taire. Pas que les humains. Ça peut être la peur. C'était mon cas. Ben oui, par mon milieu, donc je dis, oh, faut faire attention parce que je peux, il faut pas, provoquer ceux de mes origines, on sait comment. Vous voyez, je vais pas aller dans les détails. La peur. Ou la peur de sa famille. La peur de ses. Vous voyez, la peur empêche de crier vers le Seigneur. Ça peut être la honte. Oui. Ça peut être le regard des autres. Et surtout, ça peut être le péché. Mais Bartimée fait quelque chose de puissant. Il crie encore plus fort. La vraie foi, mes frères et sœurs, c'est la foi de persévérance. Il faut tenir jusqu'au bout. Et c'est ça le plus dur. C'est pas le début, c'est tenir. Recevoir le Seigneur, très bien. Mais tenir jusqu'au bout pour régner avec lui, là, la Bible nous dit, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Est-ce qu'on sera parmi les vainqueurs? Chacun sa responsabilité. Et nous avons une responsabilité collective. C'est pour ça que nous nous rassemblons pour prier, chanter et avancer ensemble. Comme un seul corps. Et quand Bartimée criait, la Bible nous dit, dans notre passage, Jésus s'arrêta. Qu'est-ce que c'est beau. Jésus s'arrêta pour une personne. Il peut s'arrêter pour chacun de nous. S'arrêta. Jésus est en route vers Jérusalem, vers la croix. Et pourtant, il s'arrête pour Bartimée. Pour une seule personne qui ne vaut rien. Pour la société, il vaut rien. Même inutile. C'est même un poids. Aujourd'hui, on dirait, oh là là, il coûte à la sécurité sociale. Hein? On dirait, oh là là, qu'est-ce qu'il coûte? Il n'a qu'à aller travailler. Et on a même qui vont porter des jugements sur lui. S'il est aveugle, c'est qu'il a commis un péché. Le jugement. Vous voyez? Ça, c'est l'humain. Non, Jésus, pour lui, il s'arrête. Il regarde au-delà. Je m'arrête pour lui parce qu'il a crié vers moi. Il s'arrête pour un homme. Cela nous révèle son cœur. Le cœur du Seigneur est un cœur de compassion, d'amour, un cœur attentif, un cœur qui sauve aujourd'hui et pour l'éternité. Alors, Bartimée, la Bible nous dit, il jeta son manteau. Il jeta son manteau et court. J'imagine la scène. Encore une fois, ce manteau, c'est pas seulement un manteau comme ça. Il représente quelque chose pour nous en tant qu'Église. Ce manteau, rappelons-nous, c'était un mendiant. Et rappelons-nous, l'apôtre Paul, à un certain moment, il demandait à un de ses disciples, « N'oublie pas de m'emmener mon manteau. » Vous voyez, si vous connaissez ce passage, il était emprisonné à Rome, si je ne me trompe pas. Et quand il écrivait à un de ses disciples, il dit, « Mais si tu es de passage l'hiver prochain, n'oublie pas de m'emmener mon manteau. » Aujourd'hui, on peut changer de manteau, de vêtements comme on veut. Hein? On commande sur Google, etc. Hop, voilà, on a le manteau. Non, un manteau, c'était d'abord une valeur. Et on l'utilise pendant des années. Ce n'était pas donné à tout le monde. Et en plus, là, Bartimée, il est mendiant. Vous imaginez, son manteau a de la valeur pour lui. Mais il l'a jeté pour courir vers Jésus, en sachant que il allait revenir, ça se peut que le manteau n'y est plus. Oui. Donc, Bartimée jeta son manteau. Ce manteau représente sa richesse, sa sécurité même. Pourtant, il le jette. C'est une image, encore une fois, mes frères et sœurs, de la croix. Sommes-nous prêts à abandonner ce qui nous paraît cher pour suivre le Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts à abandonner notre ancienne nature qui a besoin de rafistolage? Rappelons-nous la parabole, encore une fois, sur la croix. Le Seigneur ne nous propose pas un rafistolage de notre manteau. Il dit, vous voyez, le drap neuf, là, vous voyez, le vieux drap, on dit, le Seigneur n'est pas venu pour rafistoler les trous. Non, 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 non. Il a dit, ça, c'est le rafistolage humain. Ça, c'est la religion. Ça ne mène à rien. Moi, j'enlève cet ancien habit et je vous donne un tout neuf. C'est ça, les fruits de la croix, les fruits de l'esprit, les fruits de notre communion avec le Seigneur. Le Seigneur, par ce manteau, nous appelle à abandonner notre ancienne nature, renoncer au péché, lâcher ce qui nous retient. Et chacun de nous, on a quelque chose qui nous retient, différemment des uns des autres. Et souvent, on est prêt à abandonner beaucoup de grosses choses parce que c'est facile. Et il est très difficile d'abandonner les petites choses. Et c'est là que le Seigneur nous attend. Mais il est patient. Il vient le moment où on l'abandonne, mais il est tellement patient avec nous, et des fois il nous fait passer par des épreuves pour que justement on abandonne ces petites choses qu'on ne veut pas lâcher. La croix est le passage vers une vie nouvelle, c'est ce nouveau manteau. Jésus lui demande, que veux-tu que je te fasse? Attendez, le Seigneur le sait, non? De quoi il a besoin? Il est totalement homme, totalement Dieu. Il sait décider comme ça, il sait très bien qu'il est aveugle, il sait très bien qu'il est mendiant, il sait très bien qu'il veut être guéri. Et pourtant le Seigneur lui dit, que veux-tu que je fasse? Ça montre notre responsabilité à répondre. Souvent on dit, ah, Dieu fait tout. Non, nous avons la responsabilité devant Dieu de prendre la décision et de répondre. On est libre devant Dieu. On rendra des comptes selon nos décisions et nos réponses. Jésus veut une relation personnelle. Bartimée répond simplement avec un cœur simple, un cœur sincère. Seigneur, que je recouvre la vue. Alors, le Seigneur lui répond, ta foi t'a sauvé. C'est simple avec le Seigneur. Il est toujours question du cœur et notre sincérité et notre foi. Ce n'est pas seulement une guérison. Elle fera son temps. Il est très bien. Mais, gloire à Dieu. C'est bien d'avoir une guérison miraculeuse. Mais quelle en est la guérison intérieure? Celle qui nous emmène, qui nous fait passer de la mort à la vie. C'est un salut que Jésus offre. Et immédiatement, il est dit dans la parole, immédiatement, Bartimée suit Jésus dans le chemin. Voilà. Voilà l'objectif du Seigneur quand il fait des guérisons, de tout ça, ce qu'il veut. Il écrit, il suivit Jésus dans le chemin. Le chemin, quel chemin? Il va où, le Seigneur, dans notre passage? Vers Jérusalem. Qu'est-ce qu'il va faire à Jérusalem? Ce n'est pas du tourisme. Il va monter sur une croix. Est-ce que nous sommes prêts à suivre le Seigneur en portant notre croix? Ça! C'est le chrétien qui tiendra jusqu'au bout. Si nous sommes des chrétiens du dimanche, malheureusement, il est possible qu'on fera partie des vierges folles dans la Bible, c'est-à-dire celles qui ne sont pas montées vers le Seigneur. Il faut qu'on se responsabilise et de notre devoir ici à l'Église de nous interpeller, qu'on puisse avancer ensemble sur du socle. La vraie foi conduit à suivre Jésus. Bartimée n'est plus au bord du chemin. Il est dans le chemin. Et ce chemin mène à la croix. Suivre Jésus, ça coûte, mes frères et sœurs. Je ne fais pas une communication, une publicité pour vous dire, ça y est, c'est bon, tout va bien. Je rappelle que la Bible nous responsabilise. Le Seigneur a payé le prix. Mais il nous demande de nous engager avec lui en acceptant de payer le prix. Suivre Jésus, c'est vivre dans la vérité. Marcher dans la sainteté. Laisser Dieu transformer notre cœur, comme dans Marc 7, je l'ai dit. Dieu travaille l'intérieur. Et ça peut prendre toute la vie. Dieu travaille notre intérieur, toute notre vie, pour nous préparer à régner avec lui. C'est cela, la sanctification. C'est progressif, c'est pas du jour au lendemain. Chacun à son niveau. Dieu nous transforme. Seulement soyons sincères avec lui, parlons-lui, soyons honnêtes, conscients de notre faiblesse et transforme notre cœur. Sommes-nous au bord du chemin ou dans le chemin? Peut-être nous entendons, mais nous ne répondons pas. Peut-être nous gardons notre manteau. Et chacun a un manteau différent. Nous vivons peut-être dans un décalage intérieur. Mon intérieur et ma vie ne vont pas ensemble. Mais aujourd'hui, Jésus passe, comme il passe toujours. Ce matin, il passe encore une fois. Tout à l'heure, il va passer. Il passera tous les jours. Et tous les jours, il nous appelle. Voilà, je suis à la porte et je frappe. Dans l'Apocalypse, ça nous dit. Celui qui ouvre, oui, nous qui décidons. Il ne décide pas à notre place. Si lui qui ouvre, qui m'accepte, alors je rentre, je souperai avec lui pour l'éternité. Il est question de souper spirituel. Oui, comme je dis, Jésus passe et il passera toujours. Il nous appelle toujours. À travers Bartimée, nous voyons toute l'œuvre de Jésus. Car ce qu'il a fait pour cet aveugle, il veut le faire pour chacun de nous. Peut-être aujourd'hui, certains sont encore aveugles spirituellement. D'autres n'arrivent plus à prier. D'autres sont bloqués, incapables d'avancer. D'autres se sentent intérieurement morts. D'autres se culpabilisent. La bonne nouvelle, elle est là. Jésus n'a pas seulement guéri un aveugle, il est venu restaurer l'homme et Jésus passe devant nous. Crions vers lui. Crions vers lui dans notre silence ou en public, comme vous voulez, mais criez vers le Seigneur. Il est en chemin vers la croix. Il est en train de nous dire, mon sacrifice vaut pour toujours. Le Seigneur ouvre les yeux. Le Seigneur restaure le cœur. Le Seigneur relève. Le Seigneur donne la vie. Et comme Bartimée, celui qui rencontre Jésus ne reste pas au bord du chemin. Il le prend par la main, lui dit, viens avec moi et je ne te lâcherai pas, à condition que tu acceptes de tenir ma main. Si tu veux me lâcher, je continue à la tenir, mais plus tu forces, c'est toi qui as décidé de partir. Chers frères et sœurs, Dieu ne cherche pas des apparences. Il cherche notre cœur. Aujourd'hui, nous pouvons dire, Jésus, aie pitié de moi. Et le dire avec un cœur sincère. Et il est là, il passe. Il veut nous tenir par la main. Il veut agir. Sachant que la promesse est certaine. Notre foi nous sauve. Alors levons-nous, venons à Jésus et suivons-le. Car lui seul ouvre les yeux. Lui seul sauve. Lui seul conduit à la vie. Que le Seigneur nous aide. Amen.